RMC.
Bounce card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win.
Bang! Arnaud Valadon.
Salut à tous, bienvenue dans Basket Time, votre rendez-vous hebdomadaire basket sur RMC tous les mardis en podcast, avec un épisode consacré aujourd'hui à la saison régulière de NBA qui s'est achevée. La Dream Team est avec nous, Stephen Brun, Frédéric Weiss et Geoffrey Charpie. Salut messieurs.
Salut,
bonjour.
Comment ça va? Là c'est excitant, on est dans la partie qu'on adore le plus, mi-avril, fin de saison régulière, play-in, play-off qui débute.
Tout va s'enchaîner, voilà, c'est plutôt sympa.
On va voir un autre basket. Je l'espère en tout cas.
Et pas qu'en NBA, il y a l'Euroleague aussi. C'est le moment presque préféré de tous les amateurs de basket là.
Bah évidemment. C'est pour ça que tu joues au basket dans tous les cas, pour jouer ces moments-là.
La saison régulière de NBA s'est terminée dimanche. Les play-ins débutent ce mardi. Messieurs, vous allez me donner vos coups de cœur, vos déceptions. On va faire un bilan de tout cela. On va aussi parler de Victor Wembanyama qui a accordé des
ça
interviews.
Change peu, ça
change un petit peu, mais de sa
différent.
Saison, notamment de la façon dont les Spurs ont terminé cette saison 2023-2024. Le quiz sur la saison avec quelques pièges, des questions qui peuvent vraiment faire la différence. Ça part sur la saison NBA.
Une note
ça
sur le quiz pas. De difficulté
sur 5.
Un petit 4.
4 sur 5 quand même. Ah ouais.
Ah, il y a des trucs, c'est.
Fred s'est creusé la tête.
Fred, clairement, va perdre.
Ouais, Fred va partir directement.
J'hésite entre 3,5 et 4. Il n'y a pas de charade, malheureusement.
Ok.
Bon. Voilà pour ce quiz sur la saison. Et voilà surtout pour cet épisode Basket Time numéro 188. C'est parti.
Edwards gets it back. And threw it down. And one. That was ridiculous. Brunson jumper. It's good. Jalen Brunson with 57.
To Shai Gilgeous-Alexander. His step back three. Oh, he hits Shai Gilgeous-Alexander.
Oh, how about Jokic with an incredible pass to Aaron Gordon. Every night we see something new from Nikola Jokic.
Irving for the win. Oh,
late in the shot clock, in desperation,
belle production, la saison régulière terminée, 10 équipes sont déjà en vacances, Brooklyn, Toronto, Charlotte, Washington, Détroit, Houston, Utah, Memphis, San Antonio et Portland. Messieurs, comment avez-vous trouvé cette saison avant de donner vos coups de cœur collectifs et individuels? On parlait, tiens, on notait le quiz sur 5, une petite note sur 5, Fred.
Moi j'ai bien aimé, j'ai passé plutôt des bons moments, il y a eu des matchs intéressants, alors évidemment il y a des équipes qui ont été catastrophiques et qui ont un peu plombé le truc, mais dans l'ensemble les belles équipes ont bien joué, il y a eu des remontées, il y a eu des équipes comme les Suns qui ont eu des difficultés pendant un moment parce qu'ils n'ont pas trouvé leur big three, donc ça a été un peu compliqué, mais ils sont revenus comme il fallait. OK, si premier à l'ouest, je trouve ça incroyable, donc ouais, plutôt
donc sur 5,
4,32.
Ah ouais.
Non, j'ai besoin d'être précis.
La décimale aussi pour toi, la précision.
Non, écoute, moi sur une saison NBA avec ce volume de matchs, ça m'a toujours plu. Donc moi, ce sera toujours 5 sur 5 pour une saison régulière NBA parce que oui, t'as des matchs pourris, mais il y a toujours tellement de choses à raconter, tellement de joueurs à découvrir, tellement de perfs hors normes que ce sera toujours 5 sur 5 une saison régulière NBA pour moi. Voilà.
J'entends tout à fait ton argument.
Refus,
mais en même temps, t'as dit dans ton argument qu'il y a des matchs pourris, donc c'est pour ça que j'ai enlevé quelques petits
points. Geoffrey,
moi, je vais mettre un 4. Parce que comme l'a dit Fred, Oklahoma City premier à l'Ouest, on s'y attendait pas du tout. Il y a des équipes comme Minnesota, il y a des équipes comme Sacramento qui nous ont régalé cette saison. Mais je peux pas mettre plus de 4 parce que je sais que Steven va trouver ça embêtant, mais il y a un trop gros déséquilibre entre attaque et défense en NBA. Il y a eu des cartons toute la saison. Il y a eu des 130, des 140, 140.
Oh, le puriste. Oui, il y a 82 matchs par équipe par saison.
Après, c'est l'évolution du jeu.
Voilà, j'aime le spectacle, Fred. Mais au bout d'un moment, quand tu te lèves, quand tu regardes les box scores qui a 142, 154, ce n'est plus du basket. En fait.
Bah, tu ne les regardes pas, ceux-là. Tu regardes les autres.
Tu regardes un petit Washington à 80 points.
Il y en a pour tout le monde. Quand tu vas au cinéma, là, au pâté, là, à Beaugrenelle, oui. Il y a des films, il y a des blockbusters hollywoodiens, il y a des films d'auteurs.
C'est pour ça que je fais 4. je mets pas 5.
Ah, d'accord. Bah, tu devrais regarder que Minnesota.
Mais globalement, quand on voit cette dernière journée de folie, façon multiplex, les enjeux, notamment pour les play-in à l'Est et l'Ouest, on se dit que c'est quand même une bonne formule, ce play-in, pour maintenir de l'intérêt jusqu'au bout.
Oui, ça permet de, à des équipes de rester en vie et d'y croire jusqu'au bout. Après, ça n'empêche pas sur un multiplex d'avoir des équipes qui balancent, hein, comme les Cavs qui bazardent la rencontre. Il y a les équipes qui ont balancé quoi qu'il arrive parce qu'ils avaient envie de choisir. Voilà, quand il fallait choisir, comme les Knicks qui avaient la possibilité de choisir, eux n'ont pas décidé de choisir. Bon, bah, ils verront Miami ou Philly au premier tour et peut-être qu'ils s'en mordront les doigts.
Et d'ailleurs, félicitations à Chicago, hein, qui n'avait absolument rien à jouer, qui s'est battu énormément jusqu'à la fin. C'était hyper intéressant.
Félicitations à Tom Thibodeau pour avoir préservé ses joueurs aussi en termes de minutes de jeu. Bravo. 55 minutes pour Dante DiVincenzo sur un dernier match de session régulière. Bravo, Tom. J'espère que ton garçon sera en pleine forme pour les playoffs. Mais non, oui, ça a donné de l'intérêt. Voilà. Écoute, mais de toute façon, il y a toujours du bien et du moins bien sur ce genre de choses. Il y a des équipes qui balancent, il y a des équipes qui jouent le jeu jusqu'au bout. Ça dépend des philosophies. Voilà.
Et il faut parler du in-season tournament aussi, qui a été hyper intéressant, qui a permis d'avoir beaucoup plus de gens dans les salles. J'ai vu que c'était le meilleur mois de novembre depuis des années. Donc concrètement, ça a été un apport hyper important, hyper intéressant, et qui a relancé l'intérêt de ce milieu de saison où c'est vrai que c'est parfois un peu mou.
Et ça a permis aux Lakers d'avoir un titre, quoi.
Un demi-titre.
Oui, parce que c'est peut-être mal barré pour cette saison. On en parlera, on dira un petit mot des play-ins tout à l'heure. Tu parlais des Knicks, eh bien on ouvre le dossier puisque Geoffrey, c'est un de tes coups de cœur.
Exactement, c'est mon coup de cœur collectif de cette année. Ils ont arraché la deuxième place à l'Est lors de la dernière journée contre Chicago, un match qui s'est terminé après une double prolongation. Alors certes, ils vont tomber dans la partie de play-off la plus compliquée du tableau. Ils vont soit tirer Philadelphie ou Miami sur le premier tour, donc ça va pas du tout être facile. Mais Tom Thibodeau, il l'a dit après le match, il a dit: moi de toute façon j'étais pas là pour calculer, on veut gagner tous les matchs. Et en fait cette saison, les Knicks, ils ont gagné. Ils ont eu le meilleur bilan de la franchise depuis 2013, 50 victoires, 32 défaites, tout ça sans Julius Randle, hein, depuis mi-janvier après avoir été blessé.
C'est pour ça.
C'est
une vraie question par contre.
Vu qu'il ne monopolisait pas 75% des ballons, c'est peut-être pour ça, mais il y a un mec que j'aimerais mettre en avant, c'est Jalen Brunson. Voilà, il est sorti du bois et depuis plusieurs semaines, il vole un petit peu sur la ligue, on témoigne comme ses 40 puntos là, lors de la dernière rencontre. Mais surtout, il y a deux éléments très importants pour moi, et pour moi c'était une évidence de mettre Lennox dans mon top de cette saison régulière. C'est que le Madison Square Garden est redevenu une salle où il y a vraiment de l'ambiance tout le temps. C'est juste exceptionnel. Et surtout, les Knicks, alors certes, il y a le coach Tom Thibodeau qui fait qu'il réussit à inculquer des valeurs défensives à ses joueurs. Voilà, il y a des mecs comme Mitchell Robinson, OJ Anunoby. Mais
Hartenstein, n'oublie jamais Hartenstein.
Tu le prononces très très bien,
Hartenstein.
Fred.
Il vient de la Moselle, hein, c'est pas loin.
Oui,
hein.
C'est vrai. Donc voilà, New York a terminé 9e meilleure défense de la saison régulière avec, j'ai envie de dire, seulement 112 points encaissés, donc ce qui est quand même un exploit pour cette franchise. Après, le petit bémol, c'est que je me dis, et en plus Stephen l'a très bien dit il y a quelques minutes, ils ont peut-être un peu trop tiré sur les tauliers en fin de saison. Il y avait une deuxième place
c'est
à aller chercher.
C'est étonnant ça pour Thibodeau. Voilà, oui. Thibodeau qui fait ça, c'est vraiment, c'est rare.
Ils sont allés la chercher, donc bravo à eux. Ils ont joué le jeu jusqu'au bout, mais est-ce qu'ils vont pas payer ce nombre de minutes jouées par les cadres lors du premier tour en play-off? C'est possible. Et surtout, équipe un petit peu inexpérimentée sur le papier pour aller plus loin sur les matchs couperés. Donc voilà, j'avais envie de les mettre en avant malgré tout.
On est obligé de parler de ce trade effectué il y a deux mois avec OG Anunoby qui arrive contre RJ Barrett, Emmanuel Quickley et un deuxième tour de draft 2024, Stephen, parce que c'est peut-être la pièce qui manquait. On voit sur les stats, quand il est dans le 5, les plus-moins sont absolument délirants de manière positive quand il y a Anunoby sur le terrain.
Oui, Anunoby et puis Precious Achiuwa aussi qui est arrivé.
Qui est plus une surprise pour tout le monde, mais qui
fait beaucoup de bien, qui a pallié aussi à un moment donné la blessure de Mitchell Robinson. Et ça faisait une belle doublette, Hartenstein et Achiuwa. Et ça amène un peu de verticalité qu'Hartenstein n'a pas. C'est deux joueurs qui sont un peu complémentaires.
Mais c'est pas me convaincre. J'aime beaucoup le joueur, mais j'ai conscience que c'est des réalités.
Mais oui, Anunoby apporte de la dureté, apporte aussi cette qualité de tir à 3 points. Il a 40% cette saison, même s'il a loupé pas mal de matchs. Hein, oui. Avec New York, il a été blessé à un moment. Après, moi, je suis pas la bonne personne pour parler de New York parce que je les aime pas. En fait, j'aime pas les voir jouer, j'aime pas leur façon de jouer au basket.
Ou cette année
tu penses que c'est un basket il y a quelques années?
Moi, je sais pas, ça va à deux à l'heure, c'est à l'encontre de ce qui se fait de la NBA aujourd'hui. C'est l'équipe qui joue le moins de possession par match. J'aime pas cette équipe. Il y a des joueurs que j'aime bien. Hartenstein, j'aime beaucoup Josh Hart, le cœur. Voilà, c'est DiVincenzo qui s'est réinventé en tireur d'élite en prenant 10 tirs à 3 points par match. Mais j'ai du mal avec cette équipe là qui, pour moi, dépend uniquement de la qualité de match de Jalen Brunson pour gagner.
c'est assez vrai par rapport à Brunson. Mais moi j'aime bien cette équipe parce que c'est vrai que Josh Hart, c'est quelqu'un que j'adore. DiVincenzo, j'adore. Mitchell Robinson et Hartenstein à l'intérieur, c'est plutôt complémentaire et super sympa. Anunoby, il apporte des choses. Achiuwa aussi. Honnêtement, on peut ne pas aimer le style de jeu pratiqué, mais on ne peut pas ne pas aimer les joueurs qui le pratiquent. Parce que c'est vrai qu'ils ont des très bons joueurs. Je trouve que sur chaque poste, il y a des choses intéressantes. Alors, de toute façon, tu sais que quand t'es 7 ou 8 pour Thibodeau, tu vas pas jouer. Donc, c'est un vrai problème.
Et c'est pour ça que pour moi, il gâche un garçon comme Bogdanović. Il ne sait pas quoi faire de Bogdanović. Et ça me fait mal au cœur de voir la qualité d'un garçon comme ça.
Ça, je comprends. Mais tu sais quoi, j'ai envie de rêver. J'ai envie de rêver que Thibodeau va se réveiller et se dire, il y a un Bogdanović sur le banc, sur les playoffs,
lui, on va l'utiliser un peu. Ça marche.
Tu vas te réveiller avant lui, je pense.
Tu vois la façon dont Evan Fournier, ça s'est terminé l'histoire avec Thibodeau. Il est quand même obtus quand, en plus, comme ça marche, tu vois, avec son deuxième à l'Est avec ses 50 victoires, il va jamais dévier de sa ligne.
Mais tant que ça gagne, non. Mais peut-être que s'il se voit en
mais même
difficulté,
quand ça gagnera pas, il dira regardez, ça a marché.
Il peut dénouer. Ouais, mais offensivement, Bogdanović, tu peux vraiment dénouer des situations. Donc je pense que peut-être sur certains coups, s'il est là, s'il répond présent, il aura peut-être plus de chance. Alors je suis d'accord, hein, je trouve qu'il n'est pas très bien utilisé. Mais dans l'absolu, l'équipe, elle est belle. Et je trouve que sans Randle, ça joue pas trop mal.
Et bizarrement, c'est une équipe qui a terminé. Ils font quoi? Ils font deux. Hein.
Ils font deux.
Une équipe deuxième de la conférence Est. Ça, vous allez me prendre pour un fou, mais que ce soit Miami ou Philly, je pense qu'ils sont pas favoris. Non.
Ah, bien
sur le match-up du premier tour.
Alors Philly, c'est sûr. Miami, ça peut discuter un peu plus.
Mais je te dis que si Miami tape Philly,
mais Philly, par contre, qu'une équipe qui est deuxième de la conférence S, on en est à dire qu'ils sont pas favoris sur un premier tour des playoffs en jouant.
Après, il faut se rendre compte aussi des réalités. Il faut savoir pourquoi.
Les Philly sont aussi bas. Parce que Joel Embiid a loupé autant de matchs.
Et ça joue qu'à trois victoires au final, entre la deuxième et.
C'est un diesel aussi. On sait comment ça se passe. On sait qu'eux, ils ont l'expérience de remonter, de passer par un play-in, etc.
Et même Miami aussi.
C'est toujours dangereux.
Il y a cette expérience play-off, un superbe coach, Eric Spoelstra. On reste sur les coups de cœur collectifs. On va rester à l'Est, Stephen, avec le Magic.
Oui, Orlando, qui est pour moi la belle satisfaction de la saison. 5e de la conférence Est, 47 victoires. L'année dernière, ils avaient fait 13e avec 34 victoires. C'est une des meilleures équipes défensives de la Ligue avec Minnesota. J'aime bien le process avec Jamal Mosley, qui est un très jeune coach qui est arrivé il y a 3 ans. Au début de la reconstruction, il y avait 21 victoires il y a 3 ans. Aujourd'hui, ils en sont à 47. Ils vont affronter les Cavs au premier tour, qui est une match-up qui est pas facile, mais qui est ouverte sur papier.
J'espère qu'ils vont les défoncer.
Mais c'est un roster qui est très jeune, c'est 24 ans de moyenne d'âge. Les trois meilleurs joueurs sont trois garçons draftés par la franchise sur les trois dernières années. Franz Wagner en 2021, Banchero en 2022 et Jalen Suggs en 2023. Il y a une superstar qui est Paolo Banchero, qui joue uniquement sa deuxième saison et qui a déjà été All-Star. Il y a la fratrie Wagner, les deux frères allemands qui sont très bons, même si bien sûr j'ai un coup de cœur pour Franz Lely, même si le pivot quand même fait le taf de l'ombre et est très précieux. Deux garçons qu'on verra sûrement face à la France pour les Jeux à 2024.
C'est je pense qu'ils vont se reposer, c'est plus prudent pour eux.
Et c'est une équipe qui va encore progresser, puisqu'Anthony Black a été drafté en 6e cette année, n'a que 20 ans. Cole Anthony, qui on a l'impression qu'il est là depuis longtemps, mais il a que 23 ans. J'aime bien, c'est un roster très jeune, encore perfectible.
T'as oublié Wendell Carter qui a été blessé.
Qui est un big man qui est bon. Ça manque un peu de génie à l'intérieur pour Orlando, mais pour moi, une ou deux pièces et ça peut faire partie rapidement d'un contender dans la conférence Ouest. Voilà.
Tu penses qu'est-ce qu'il leur faut? Là, tu as dit un intérieur. Qu'est-ce que vous pensez? Peut-être aussi un forward, parce que même si Jalen Suggs fait sa meilleure saison...
Il faut laisser progresser. Les Suggs, ils vont monter, ils vont être très forts. Je pense qu'il ne faut pas rajouter un mec ultra talentueux sur les postes extérieurs. Ils ont ce qu'il faut. Pour moi, il faut un intérieur un peu plus solide.
Un gros 5 qui te bloque bien tout et qui a de l'expérience. En plus, ce serait plutôt pas mal.
Ouais. Je suis entièrement d'accord, mais après, moi la question c'est qu'est-ce que veut faire le Magic? C'est-à-dire que t'as donné les stats, il y a 3 ans ils étaient à 20 victoires, là ils sont pratiquement à 50 victoires cette année, mais est-ce que là ils atteignent pas une sorte de plafond de verre? Est-ce qu'ils pourront faire mieux avec l'effectif actuel?
L'effectif va progresser justement.
Ils ont que des gamins, les mecs.
Oui, mais les gamins ils vont peut-être vouloir aller dans un marché un petit peu plus ambitieux. C'est pas en restant Orlando.
Orlando, attends.
Mais tout le monde n'est pas comme toi. Non, mais c'est surtout tout le monde n'est pas bien.
Oui, mais c'est
le pognon. Ils veulent aussi gagner des choses.
D'accord, mais Orlando, t'es très bien, t'as un cadre de vie très
qualité
sympathique.
De vie,
mais...
Qualité de vie, ça part, Orlando,
bien évidemment. Mais
en short toute l'année à l'entraînement, ça doit pas être dégueu.
Hein. Ok, c'est bon, vous m'avez convaincu.
Et surtout, ils sont dans une.
Tu vas chez Disney, en plus.
En matière salariale, ils vont avoir énormément de marge de manœuvre parce que le meilleur contrat cette année, c'est Jonathan Isaac.
Ils payent pas grand monde, hein.
Parce que là, j'ai Banchero au contrat rookie.
Oui, bien sûr.
C'est ce que tu disais. Ils sont tous dans leur contrat rookie. Suggs, Franz Wagner. Donc, c'est le moment. Ça peut être vraiment. Vous les voyez. Vraiment faire un bel été et avoir
l'année prochaine top 4. gagner une place.
Mais t'as pas besoin de beaucoup bouger, hein, je suis d'accord, parce que t'as des joueurs qui vont progresser d'année en année, qui ont déjà montré des choses, mais qui ont un potentiel hyper important. Donc moi, je pense que c'est une équipe qui a une vraie équipe en devenir.
Ok. Non.
Le nouvel OKC, c'est bon,
ils m'ont convaincu.
Et le nouvel OKC, mais est-ce que l'actuel OKC, Fred, c'est ton coup de cœur?
Évidemment que c'est mon coup de cœur. Alors, on m'avait parlé d'un duo, hein. On m'avait dit ça va être Shea et Chet. C'est un peu plus compliqué que ça. Hein. Il y a Jalen Williams qui arrive, qui fait des stats incroyables, qui est quasiment All-Star, en tout cas en termes de stats. T'as Josh Giddey qui est là, qui peut apporter plein de choses aussi. Alors on sait qu'il a eu des problèmes un peu hors basket au début de saison, donc ça l'a bloqué. Mais il est lavé de ça, donc ça va beaucoup mieux. C'est une équipe qui, l'année dernière, était 10e avec 40 victoires pour 32 défaites. Ils sont à 57 victoire. Ils ont gagné 17 victoires en une année. Marc Degnaud fait un taf incroyable. Il y a de tout. Il y a Lou Dort. Il y a de la défense. Il y a du shoot à 3 points. C'est sympa. Et on a un joueur comme Shea qui peut être vraiment super intéressant. Donc, juste pour revenir un petit peu sur les joueurs, Jalen Williams, qui est possible MIP, concrètement, parce que vu sa progression, il n'est pas très loin. Même si moi, mon coup de cœur, c'est Coby White. Ensuite, t'as Chet, qui a été pendant longtemps, même s'il a été rapidement écarté, la course au rookie de l'année. On a Shea qui peut être MVP et on a Marc Degnaud qui peut être meilleur coach. On a quand même une saison qui est assez magnifique. Quand même.
Qui a, c'est pas tombé d'ailleurs, je crois, Marc Degnaud meilleur coach et lui meilleur coach. Je crois que c'est
non.
Pas encore.
Je crois pas.
Ouais,
c'est pas
ça. Tu l'as vu, je l'ai pas vu moi. Mais
peut-être un insider de Harper, peut-être. Mais
voilà, une saison magnifique, équipe magnifique, c'est jeune, ça court.
Non,
ça
et du coach de l'année par ses pairs, c'est tombé cette nuit.
Ok.
Coach de l'année, comme je le disais, je le savais évidemment. Donc Marc Degnaud, coach incroyable qui fait des choses fantastiques. On parlait de joueurs et d'équipe montée sur de la draft. Il y a quand même beaucoup de joueurs draftés dans cette équipe. Chet, Jalen Williams, Giddey, c'est drafté par OKC. Donc alors oui, ils ont récupéré Shea, mais ils ont bien récupéré et ils ont bien fait de le prendre.
Élu coach de l'année par les coachs eux-mêmes, hein, l'association des coachs. Hein.
Ah donc c'est pas le trophée, voilà. C'est pas le trophée final.
C'est pas mal quand même.
Oui, c'est déjà pas mal.
C'est une
après, est-ce que pour revenir sur Chet Holmgren, j'ai vu une déclat de Chet Holmgren, vous allez me dire si vous y croyez ou pas, quand il dit j'ai sacrifié mon titre de rookie de l'année au profit de l'équipe, c'est-à-dire qu'il a privilégié les victoires d'équipe plutôt que son ego personnel en faisant des stats.
Il est un peu belge, non ?
Est-ce que je dois répondre à ça vraiment ?
Je sais pas.
Est-ce qu'il y a une réponse à apporter de dire
l'équipe a performé, donc ça peut se tenir dans l'argumentation de Chet Holmgren.
C'était juste la troisième option de cette équipe qui tournait très bien. Donc pourquoi il avait moins de ballons évidemment, mais pas pour l'équipe, c'est parce qu'il y avait deux joueurs qui étaient plus forts devant lui.
Donc Pipo.
Il y a une stat qui circule, c'est que tu compares l'apport avec des datas entre Chet Holmgren et Victor Wembanyama pour les rookies. Ils mettent que Chet Holmgren a plus apporté au Thunder cette saison que Victor Wembanyama, ce qui s'explique les 17 victoires. Bah, 17 victoires, c'est des datas.
Ouais.
Ça vous dites peut-être dans les datas, mais pas dans les esprits.
Dans les datas, oui, mais à chaque fois qu'il y a eu un affrontement Wembanyama-Holmgren, Wembanyama, il lui a roulé dessus. Donc, pour moi, il n'y a pas de débat sur le
trophée de l'année.
Au rookie du mois. Et
non, mais sur une stat en data qui dit que Chet Holmgren a plus apporté en tant que rookie à son équipe que Victor Wembanyama aux Spurs.
Il fait une très bonne saison,
Chet Holmgren.
Personne ne dit le contraire. Ouais,
par rapport à la progression de l'équipe, voilà, c'est un indice.
Moi, je suis curieux de voir le vote final, parce que bon, je suis convaincu que Victor sera rookie de l'année, mais je ne serais pas surpris qu'il y ait vote à l'unanimité. Victor Wembanyama, c'est un rookie de l'année à l'unanimité, comme Steph Curry avait été une année.
Tu as peut-être un rageux, un journaliste du Thunder qui va mettre.
Oui, peut-être. Bah, il passera pour une pipe alors.
Ça peut être très drôle. Moi, j'aimerais beaucoup qu'un journaliste du Thunder mette Chet Holmgren. Ça me plairait beaucoup. Mais concrètement, il n'y a pas photo. Il y a eu un apport incroyable. Il y a un joueur qui est fantastique. L'autre, encore une fois, il fait une bonne saison dans une bonne équipe. C'est un joueur qui a aidé effectivement son équipe à être meilleur encore, parce que 17 victoires, c'est quand même conséquent.
Deuxième meilleur contrat de la Ligue, je crois, Chet Holmgren. C'est la première fois qu'il y a deux rookies de première place.
Ouais. Donc concrètement, tu ne peux pas dire grand-chose sur sa saison. Mais tu ne peux juste pas comparer avec Victor. Quoi.
C'est pas la même planète.
Ben non.
En play-off, OKC jouera le 8e. Quand on voit qui peut terminer 8e, on rappelle, c'est mardi soir, Pelicans-Los Angeles pour le match 7-8. Ensuite, Sacramento-Golden State de l'autre côté. Le vainqueur de Sacto-Golden State jouera le perdant de Pelicans-Los Angeles. Quand même pas cadeau de récupérer soit le 7e ou le 8e à l'Ouest, non ?
Tu récupères Golden State qui a un tout petit peu d'expérience à leur côté.
Draymond Green face à Chet.
Non, mais à leur côté OKC, que tu en as zéro ou quasiment d'expérience, c'est pas cadeau.
Après, moi, je vais aller Warriors en vacances ce soir à Sacramento.
Ouais ?
Ouais.
Sans Malik Monk ?
Sans Malik Monk.
Ok.
Avec Sabonis, Diaron Fox.
Après, oui.
Werther, il revient ?
Non, non, il est out.
Et, il est out aussi, donc c'est bon, je trouve que c'est un peu juste. Hein.
Mais après, je vais voir comment ils vont stopper Sabonis. Hein. Allez voir, parce que Draymond Green, il est beau et vaillant. S'il y a des fils qui se touchent, c'est terminé.
Jackson.
Il t'envoie
mais pour revenir sur la match-up, alors oui, c'est pas cadeau de jouer les Warriors ou n'importe qui d'autre. Alors moi, j'estime que c'est surtout pas cadeau de jouer l'équipe qui a terminé premier de la Conférence Ouest. Hein. Ils sont ultra favoris. Ok, s'ils ont quand même des certitudes sur 82 matchs d'une saison, je pense pas qu'ils fassent caca culotte en play-off alors que tout a fonctionné comme il faut. Quoi.
Honnêtement, moi, j'ai un vrai doute. Parce que c'est une nouvelle compétition, c'est des jeunes joueurs, c'est, tu vois ce que je veux dire, c'est différent, tu abordes quelque chose que tu ne connais pas vraiment.
J'ai pas de doute sur le patron de l'équipe en tout cas.
Lui il va pas brancher, c'est autour que ça peut brancher.
Est-ce qu'ils vont pas surfer sur cette euphorie à se dire on est invincible, on a terminé premier de la Conférence Ouest, personne ne peut nous toucher?
Objectivement, les deux sont possibles. Okay. Vraiment, pour moi, les deux sont possibles.
Je crois que c'était dans le podcast avec Paul Pierce ou Kevin Garnett, il les trouvait que c'était des dogs vraiment, cette équipe de KC, des fous furieux et qui ont peur de rien et qui doutent de rien.
C'est normal, il n'y a pas d'Européens. C'est pour ça qu'ils pensent que c'est une équipe de tough guy.
Il y a un Australien,
ouais. Mais bon, c'est pas un Européen, Australien, Arnaud.
Non.
Jusqu'à preuve du contraire.
J'ai
arrêté l'école en CM2, mais il me semble que c'est pas le même continent, quand même.
Non, mais quand il disait Européen, je pense que les joueurs en dehors, tu sais, ils visent surtout les joueurs en dehors des États-Unis.
Non, je pense qu'il parle
Européen, et je pense qu'il parle Hexagone aussi, surtout.
Oui. Oui, je pense aussi.
Les rookies, puisqu'on en parlait, Fred, là, tu n'as pas voulu faire un coup de cœur individuel,
mais j'ai
pris la classe de draft 2023.
Alors concrètement, j'ai fait quand même un coup de cœur individuel, mais je ne vais pas vous parler des Wemby, des Brandon Miller, des Bilal Koulibaly, des Jaime Raquez, des Podziemski, tout ça, tous ces joueurs qui, franchement, nous ont surpris quand même par rapport à leur qualité, de Chet, bien sûr. Et ils ont fait une super saison, ils ont bien défendu, ils ont été directement dans le moule, je pense surtout à Raquez et Podziemski qui, à Golden State, tu disais, ce mec, il va pas pouvoir
être le successeur cadrer. De Clay. Hein.
Et finalement, bah, il a été très bon. Il a apporté plein de choses. Jaime Raquez, qui a fait 4 ans de fac quand même, c'est quand même rare à notre époque. Lui aussi, à Miami, qui s'est tout de suite intégré. Et ben non, j'avais envie de parler de Trace Jackson Davis. Justement, lui aussi.
C'est pour ça que tu m'as dit que c'est lui qui allait stopper sa bonus.
Exactement. Ben, j'étais obligé d'avoir mes arguments quand même. Honnêtement, le fils de Dale Davis, c'est un joueur qui est incroyable. Lui aussi, il fait 4 ans de fac, c'est-à-dire qu'il arrive, il sort de là, il a 23 ans, il fait une saison à 8 points, 5 rebonds, il donne de l'énergie à cette équipe de Golden State qui en manque souvent, qui manque d'enthousiasme. Lui, il est là, il saute haut, il n'est pas très grand, hein. Il a été drafté 57e par Washington. Et tu sais pourquoi il a été échangé avec Golden State? Pour combien?
Enfin, pour c'est pas dans le prix de Jordan Poole.
Juste de l'argent.
De
paquets de MLMs.
Exactement. Donc c'est plutôt pas mal du côté de Golden State. Alors on peut parler de Podziemski, oui, très bon rookie, mais je suis pas sûr que le meilleur coup de Golden State soit pas Trey Jackson Davis.
Et en plus il a Thomas sur Wembanyama.
Ça. Exactement.
Bon, il en a mangé un après, mais il a mis à Thomas.
Mais vraiment athlétique et ce joueur qui vient de un peu de nulle part en étant drafté 57e. 4 ans de fac.
Mais c'est là on voit
il a déjà été meilleur que James Wiseman Warriors.
Mais c'est ça. Donc vrai gros coup du côté Golden State et un petit coup de cœur pour lui parce que franchement personne n'attendait vraiment à ce niveau-là.
Mais ça prouve que c'est solide le front office de Golden State parce Exactement. Qu'ils ont quand même perdu Bob Myers qui est parti et ça continue de faire les bons choix.
Ça fait un super choix sur ce coup-là et on sent que l'association avec Draymond Green, elle ne fait que débuter.
Bon, les rookies, tu m'as pas parlé de Scoot Anderson, qui est peut-être la petite
c'est pour ça que j'ai pas cité tous les rookies.
C'était Vespa cette saison. On espère que ça sera MP3 la saison
Vespa,
prochaine.
Vespa, c'est plutôt classe.
Mais il a plutôt bien fini la saison.
Oui, ça allait un petit peu mieux, mais c'est vrai qu'il a beaucoup parlé et il a pas beaucoup prouvé après.
Stephen, ton coup de cœur?
Bah écoute, Anthony Edwards, parce que j'ai envie de rappeler qu'Anthony Edwards a 22 ans seulement, on a l'impression que ça fait un moment qu'il est là et que c'est un garçon qui est le patron d'une équipe, mais il est patron d'une équipe, elle a 22 ans, deux fois All-Star, et c'est le leader d'une équipe qui s'est battue jusqu'au dernier match de saison régulière pour terminer premier de la Conférence Ouest. Alors ils ont perdu malheureusement, ils finiront que troisième, mais à 22 ans, c'est lui le taulier d'une équipe composée de Karl-Anthony Towns, Rudy Gobert et Mike Conley. 26 points, 5 rebonds, 5 passes de moyenne. C'est un match à 51 points, deux matchs à plus de 40 points, une pointe à 13 rebonds, 5 matchs à plus de 10 passes. Attaquant exceptionnel avec ce mimétisme un peu avec Michael Jordan sur certaines façons de bouger. Énorme attaquant, mais j'aime aussi son application défensive. si Minnesota est la meilleure équipe défensive, c'est Rudy Gobert, oui, mais parce qu'Anthony Edwards fait les efforts aussi sur l'homme. Et puis Anthony Edwards, c'est le dunk de l'année sur John Collins. Je pense que c'est le plus beau dunk de la saison. Il a mis un énorme pétard sur John Collins.
D'ailleurs, ils se sont blessés tous les deux.
Exactement. Et puis,
il n'y a pas un peu offensif là-dessus.
Bon, après, je sais pas, il est en l'air à un moment donné.
Si tu siffles ça, c'est fini.
Oui, c'est terminé. Et puis, il y a une campagne de play-off qui arrive. Et on peut se demander si Anthony Edwards est capable d'assumer ça. On l'a vu l'année dernière face à Denver qu'il était capable d'assumer. Il avait fait une série fantastique contre les Nuggets. Là, c'est un vrai défi pour lui parce qu'il va affronter Devin Booker, Kevin Durant et Bradley Beal. Mais moi, je crois en Anthony Edwards. Et Anthony Edwards, avec Victor Wembanyama, sera le futur visage de la NBA.
Évidemment, on attend toujours ces stars au tournant avec les playoffs. Phoenix, c'est un bon passage, un bon test quand même, Fred, qui arrive pour Minnesota et surtout valider tout ce qui est mis en place, la venue de Rudy notamment.
J'ai du mal avec Phoenix parce que j'adore cette équipe sur le papier. C'est une équipe qui a beaucoup de potentiel offensif, évidemment, et pour stopper tous ces joueurs, c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'ils sont souvent sur courant alternatif et je suis toujours un petit peu déçu parce que un jour ça va être parfait, le lendemain ça va être catastrophique. Sauf que Minnesota, ils sont plutôt très réguliers. Donc j'ai envie de dire que c'est plutôt
un vrai test pour la meilleure défense de NBA.
Ouais, c'est ça, un vrai test parce que là il y a de quoi défendre. Et en plus, je pense que Grayson Allen, il va te balancer ça comme il veut parce qu'il vient de signer une belle
prolongation. 100 millions à
70 sur 4 ans. Donc je pense que lui aussi, lui qui est le meilleur shooter en adresse à 3 points de la NBA, je pense qu'il va bien collaborer à ce que l'attaque des Suns soit de feu.
Et puis on va revoir un duel Nurkic Rudy Gobert,
ouais,
qui on se rappelle sur une fenêtre internationale avait mal fini pour Rudy Gobert, mais Phoenix a une bonne tête de trouble faite. Hein. Oui. C'est pénible à jouer parce que tu as des mecs qui connaissent le très haut niveau, qui sont champions NBA, qui peuvent mettre 40, 45, 50.
Son niveau,
et pas blessé.
Minnesota, faut que Minnesota soit près du texte défensivement parce qu'il y a beaucoup de choses à arrêter du côté de Phoenix.
Oui. Est-ce que c'est presque, en attendant de connaître, il nous manque deux affiches à l'est, deux affiches à l'ouest, c'est celle qui wipe le plus?
Non.
Où il y a Clippers Mav?
Bah oui. Même si elle me hype, mais elle me saoule un peu parce que je l'ai trop vu en fait, ce Clippers Mav. Mais elle me hype quand même.
Ils vont passer pour toi, Dallas?
C'est pas dur. Tout dépend de Kawhi.
Moi, je mets une pièce sur Dallas.
Mais moi, j'en mettrais deux même. Mais là, je parle avec le cœur, donc je peux pas me prononcer sur cette série.
On termine les tops, Geoffrey, avec finalement du numéro 1 de draft 2020, on passe à celui de 2019.
Exactement. J'ai été à deux doigts de le mettre dans le flop individuel. Mais au vu de sa deuxième partie de saison, ce sera forcément un top. Je vais parler de Zion Williamson. Son corps l'a à peu près laissé tranquille cette saison. Il a porté les Pelicans quand Brandon Ingram il était blessé. Il a plus joué depuis le 21 mars, hein, Brandon Ingram. Zion Williamson, en moyenne, cette saison, c'est 23 points, 6 rebonds, 5 passes en 70 matchs. Ça lui était jamais arrivé forcément depuis ses débuts dans la Ligue de disputer autant de rencontres. C'est pas les stats les plus impressionnantes pour un All-Star, hein, 23 points, 6 rebonds, mais il a changé son jeu. Et j'ai été le premier à, quand il a accumulé les blessures, quand on avait du mal à se projeter sur son retour, à dire il reviendra jamais à son plus haut niveau. Et en fait, là, il n'est pas à son plus haut niveau, mais il a changé son jeu. Il sert ses coéquipiers, il sort le ballon quand il est doublé, il est beaucoup plus intelligent dans tout ce qu'il fait. Il fait plus de comptes, plus d'interceptions, il perd moins de ballons. Donc pour moi, Zion Williamson, j'avais envie de le mettre en avant parce que si les Pelicans, ils ont terminé 7e à l'Ouest, c'est en partie grâce à Brandon Ingram, mais en partie grâce à l'intelligence de Zion Williamson. Et je pensais jamais mettre Zion Williamson et intelligence dans la même phrase. Donc voilà, je me suis trompé. Bravo à lui, bravo aux Pelicans. Je sais pas si.
Formé à Duke quand même.
Comment?
Formé à Duke quand même.
Formé à Duke, très intelligent. Mais je te dis,
le mec, il vient de dire le contraire. Tout est son contraire.
Je veux dire,
oui, très intelligent.
Quand il a accumulé les blessures, on était là, on se disait, il fait pas les efforts nécessaires. Il met pas tout en place d'un point de vue personnel, d'un point de vue diététique.
Oui, c'était vraiment sur l'état physique.
Voilà, exactement. Et je me disais, je ne sais pas si ce garçon va pouvoir être l'OVNI que la NBA attendait. Là, l'OVNI, il n'est pas apparu cette année, mais il a changé et de façon positive. Donc bravo champion.
Est-ce qu'il est pour vous le meilleur maillon de ce trio McCollum, Ingram qu'il forme?
Ingram, pour moi, il n'y a pas photo. Ingram, c'est bien meilleur. Mais ouais, sauf que Ingram a été blessé. Ingram, ouais, c'est compliqué au niveau des blessures.
Ingram,
et même ce
complet
trio, en général, est compliqué. Je trouve qu'ils ont une très... Moi, j'aime beaucoup l'équipe des Pels, mais quand tu n'as jamais ton trio qui est censé te tirer vers l'avant, qui est au complet, Willie Green, il doit s'arracher les cheveux, ouais, en se disant « j'ai une belle équipe, j'ai un potentiel incroyable », sauf qu'ils ne jouent jamais ensemble.
Ouais, bon, Brandon Ingram est revenu sur le dernier match, mais c'est Zion qui n'a pas joué. Ils ont perdu contre le Lakers, qui étaient les prémices d'ailleurs du play-in. Non, mais Zion... même sur son corps, il y a une certaine évolution, je trouve, sur son corps. Il a fondu un petit peu, il a transformé un peu la graisse en masse musculaire. Il est quand même intenable quand il est en pleine forme sur ses percussions. Il est pas stoppable parce qu'il est trop costaud du haut du corps. Et puis il a toujours cette détente exceptionnelle. Maintenant,
qu'est-ce qu'il est nonchalant par
contre. Oui. Et puis les Pels m'ont déçu parce qu'on a parlé d'un prétendant au top 3 à la Conférence Ouest. Et puis sur la fin de saison, je crois qu'ils font 7 victoires en 14 matchs pour finir. Donc ils se retrouvent à jouer un play-in pourri pour eux parce qu'ils avaient tout en magasin pour finir facilement dans les 6. Voilà, on a vu que McCollum était capable de prendre le relais au scoring quand Brandon Ingram a été blessé. Maintenant, quand ils sont tous là, et puis ils ont des bons soldats, hein, Alvarado qui est là, Herb Jones qui est solide, donc ils ont des bons.
Il y a Murphy Street qui a fait un bon passage
aussi.
Collectivement, Willie Green, il fait quand même du bon travail.
Parce qu'il arrive à faire du bon boulot. Oui, c'est un bon coach, hein, Willie Green. Oui,
non, mais c'est un bon coach, mais encore une fois, je pense qu'il aimerait avoir la plénitude du potentiel de son équipe un jour ensemble.
Alors, pour terminer les tops, il y a Pierre Dorian qui nous a communiqué son top, Baron Davis.
Non, mais c'était une blague.
Oui, je sais. Mais j'aime bien. On ne manque jamais une occasion de parler du Baron.
Bien sûr. Il aurait pu mettre Babak, c'est son anniversaire, non, en plus, aujourd'hui.
Il a 42 ans, Babak.
Bon anniversaire.
Bon anniversaire, Boris, si tu nous écoutes. Allez, on passe au flop dans Basket Time, bilan de la saison régulière. The first 2 minutes, Garrison Matthews puts his toe on the line, and that got him a technical foul with the play at the other end of the court. Tony Brothers was trying to talk to DeJounte Murray there, and he blew him off, and then he went, okay, you don't want to talk. You get a cheat. You get a cheat. Yeah. You get a cheat. Gobert gets in there. Draymond's got him in a headlock. There's a lot happening here.
I like Draymond, but this is, you can't punch guys.
Jordan Poole has been the laughingstock of the NBA this season. Well, when you see all the foolish things he has done, you can't help but laugh.
Oh, did they give him a cheat? No. I mean, it was slightly extra, but not that extra.
After review, the backside defender picks the ball. Therefore, the call on the floor has been overturned to a...
What? That's not right!
Vos flops, messieurs, on était très bavards sur les tops. On va faire...
On va faire plus court, c'est ça?
Ouais, on va faire plus court. Mais moi, le premier. Fred, justement, on attaque. Ton flop collectif, ton flop individuel.
Alors, c'est un petit peu difficile de dire flop, hein, mais Houston. Houston, ce que j'attendais tellement de cette équipe, c'est une équipe qui a sorti le carnet de chèques. Ils voulaient un maître à jouer, ils ont pris Van Vliet. Ils voulaient un chien défensif. Ils ont pris
Dylan Brooks.
Ils voulaient des anciens, ils ont pris Jeff Green. Ils ont un potentiel de joueurs assez incroyable comme Sengun, Jalen Green, Jabari Smith. Ils ont drafté à la 4e position Amen Thompson. Ils ont un coach incroyable, oui. Ime Udoka. Moi, au début, j'étais hypé de fou. Alors, les gens vont dire que je suis un petit peu dur parce que concrètement, il y a 19 victoires de plus quand même que l'année dernière. Ils sont passés de la 15e à la 11e, mais de 22 à 41 victoires. C'est quand même assez incroyable.
Ils sont à l'équilibre.
Exactement à l'équilibre. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Sauf que cette équipe m'a hypé tellement que je suis un petit peu déçu qu'ils ratent les play-ins. Parce qu'en plus, ils ont eu un passage hyper intéressant, sans Sengun en plus. Et finalement, je me dis, c'est un peu dommage. Donc je pense que l'année prochaine, on devrait avoir une magnifique équipe de Houston.
Avec un Jalen Green qui s'est révélé sur la fin, ouais, hein, absolument incroyable.
Énorme joueur de la semaine, je crois, du mois. Jalen Green, ils ont gagné 14 matchs sur 15 à un moment donné. Ouais. Ils font une série exceptionnelle qui les mettent quasiment en play-off. Bon, après, la perte de Sengun leur a fait mal.
En fait, leur série...
Ils ont pas joué sans lui,
quand Sengun part, mais ça permet à Jalen Green aussi d'avoir beaucoup plus de ballons et de se révéler. Mais c'est vrai que cette équipe, elle était alléchante. Maintenant, moi, je ne fais pas une croix sur eux. Je les attends la saison prochaine parce que maintenant, ça fait une année supplémentaire ensemble. Apprendre à jouer ensemble. Après, ils ont perdu des matchs qu'ils ne devaient pas perdre, hein, notamment contre ce Mavs-là où Jabari Smith fait 0 sur 2 au lancer et après ils prennent ce tir à 3 points dans Dante Exum pour aller en prolongation et après ils perdent. Mais c'est une équipe qui est encore jeune sur le papier.
T'as lu le déclat d'Ime Udoka qui disait « Je suis un petit peu déçu quand même. »
Oui,
effectivement,
forcément,
on fait bien mieux. Bien sûr, on a progressé. Mais on était à deux doigts d'être sur notre objectif et quand tu
t'as pas sur la pente ascendante de la fin de saison.
L'année prochaine, j'espère pour eux que ce sera 47 ou 48 victoires.
En tout cas, je leur souhaite et leur équipe est bien construite et de façon intelligente en tout cas.
Et ton flop individuel ?
DeAndre Ayton. Ça, c'est simple. Hein. DeAndre Ayton, c'est toujours un flop individuel.
Tous les joueurs de Portland, en fait.
Oui, mais DeAndre Ayton, moi, c'est un joueur qui m'avait tellement hypé pendant la finale 2021. Pendant les phases finales, de 2021.
En termes de nonchalance.
Mais en fait, tu vois, ce mec, il a à peu près tout. Il est capable de jouer n'importe comment au poste. Il a un turnaround. Il peut shooter. Il a vraiment tout. Offensivement, défensivement, il prend des rebonds, il a du jump, il a du timing, il a une tête de vieux. Donc, tu as l'impression qu'il a ce caractère qui te permet. Mais le mec est tellement nonchalant. Tu t'attendais à ce qu'il explose. Finalement, il fait pas une mauvaise saison. Hein. Presque 17 points, 11 rebonds. Mais concrètement,
surtout après son trade, hein.
Il a plané sur une équipe qui a terminé dernière quand même de sa conf.
On disait, il n'est pas heureux à Phoenix, voilà, Stephen, et, peut-être qu'à Portland, et finalement, change rien.
Je sais pas, je pense que Phoenix, ils ont gagné au change, mais avec Youssef Nurkić.
Tout le monde se plaignait. Hein. Oui, disait, ouais, Nurkić.
Oui, mais Ayton demandait son départ, il ne voulait pas être prolongé. On dit, le problème, c'était peut-être la relation Ayton-Phoenix.
Et puis, DeAndre Ayton avait des grands déclats en disant pourquoi je ne suis pas considéré comme un des meilleurs pivots de la ligue, à mon grand.
Regarde,
prends des DVD, va sur une League Pass, et puis refais tes matchs, tu comprendras pourquoi.
Et c'est une vraie déception, parce que, encore une fois, je me répète, ce garçon, offensivement, sur ses pivotés, sur son footwork, il a absolument tout.
Stephen.
Oui. Ma déception individuelle, Jordan Poole. Washington, Jordan Poole, est-ce que vous voulez.
Est-ce qu'on peut faire ça tous les ans, finalement.
La capitale des États-Unis.
Les deux noms qu'on vient de citer, là, c'est.
Irrécupérable, Jordan Poole.
Ouais, je sais pas. Enfin, 4 saisons Warriors, un titre de champion, une patate pleine bouche de Draymond Green. Il débarque à Washington pour normalement devenir le go-to guy de l'équipe de la capitale avec un contrat XXL, 128 millions sur 4 ans, on le rappelle. C'est un garçon qui était important l'année du site avec les Warriors. Il était à 17 points de moyenne sur les playoffs. Et puis là, ça a été cata. Énorme flop individuel et collectif. 29e bilan de la Ligue, 15 victoires. Et c'est 20 victoires de moins que la saison dernière, à l'époque Bradley Beal et Kristaps Porzingis. Poole, c'est 40% de réussite, 17 points de moyenne. Sorti du 5 majeur en février quand Brian Keefe prend l'équipe à la place de Wayne Sled. C'est 13 matchs à 10 points au moins. 1-0 pointé contre Cleveland. Je sais pas quoi dire de ce garçon qui a du talent offensivement, mais trop irrégulier, sélection de tir catastrophique, défend pas un cachou.
Et on parlait de nonchalance.
Donc il va falloir mettre les doigts dans la prise pour lui, parce que.
Et considéré comme très jeune, par
il est franchise. Il est encore jeune, il a 23 ou 24 ans, mais passé des Warriors où l'année dernière il était encore au deuxième tour des playoffs en étant un membre important avec Steph Curry, avec Klay Thompson, avec Andrew Wiggins.
On parlait presque de Factor X.
Exactement.
Même.
Et son transfert à Washington, il était même dans les pour dire attention, peut-être le meilleur score de la ligue, Jordan Poole à Washington. Finalement non. Voilà, et puis collectivement, les Raptors en fait. Les Raptors, 25 victoires cette saison pour la première sur le coach sur le banc de Rajakovic. C'est une énorme déception pour moi. 12e de la conférence Est. Une saison particulière marquée par un changement parce que le départ de l'emblématique Pascal Siakam tradé à Indiana.
Anunobi.
Et Anunobi aussi, Precious Achiuwa à New York. Ils ont récupéré RJ Barrett, Emmanuel Quickly, Bruce Brown. Voilà, alors ça a pas matché. C'était un nouveau départ, mais ça a pas matché. Alors quant à Scotty Barnes, Serge Barrett, Quickly, Bruce Brown, Olynyk, Grady Dick, le rookie qui a été plutôt bon, et Gary Trent Jr. J'ose espérer quand même que tu peux envisager un peu plus que 25 victoires. Je trouve que c'est un roster qui tenait la route. Voilà, alors ils ont bazardé totalement la fin de saison pour justement avoir un premier tour de draft. 3 victoires sur les 24 derniers matchs de la saison. Maintenant, Masai Ujiri est un des meilleurs dirigeants de la NBA. Je suis curieux de voir ce qu'il a en tête, mais ça me paraît une très petite saison pour Toronto avec des joueurs quand même de qualité.
Les fins de contrat ont fait Siakam, Anunoby, ils ont bougé de cette façon-là. Ils ont fait une croix.
Mais c'est vrai que ça mérite.
Le go-to guy, c'est Scotty Barnes.
En tout cas, Scotty Barnes, mais qui n'a pas fini la saison. Il, fait, il est parti début mars, je crois. Il a arrêté fin de saison début mars. Voilà. Et puis un énorme Dick. Hein. Je voulais le dire quand même.
C'est bien.
Le rookie.
Il a fait une belle photo avec Anthony Black. Geoffrey, sans transition.
Alors, je vais commencer par le flop individuel. Pour moi, c'est Ben Simmons qui avait promis en début d'année son grand retour sur le devant de la scène en NBA. C'était kiffant, c'était aguichant. Il y a eu quelques fulgurances, mais malheureusement, ça a pas tenu. Tout s'est arrêté après 15 matchs. La faute a un corps trop fragile et de nombreuses blessures. La dernière étant un souci au dos, ce qui lui a valu d'être opéré. Saison blanche en 2021-2022, 42 matchs disputés en 2022-2023 et seulement 15 cette saison. C'est peu, c'est trop peu, surtout pour un joueur qui... je le rappelle, il a été drafté numéro 1 en 2016. Les Nets, ils ont terminé 11e de la conférence Est. Et malheureusement pour eux, il reste une année de contrat à l'Australien à plus de 40 millions de dollars. Donc ça va être très compliqué, voire impossible de le trader. Sa franchise a indiqué après l'opération qu'il devrait être apte pour le training camp de l'été prochain. Donc ça lui laisse de temps quand même pour revenir... peut-être pas à 100%, mais du moins à 80% de ses capacités. Il est déjà l'Australien, il est forfait déjà pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et depuis 2 ans, Ben Simmons, bientôt 28 ans, c'est 6,7 points, 6,7 rebonds et 6 passes de moyenne en cumulé sur 2 ans. Voilà, pour un garçon qui a été numéro 1 de la draft en 2016.
Triple six.
Comment ? Exactement, c'est un triple six, c'est un 3x6, c'est pas un 5x5. Alors il a un tir assez horrible, certes ce sera jamais une immense star, mais après des soucis aux Sixers, voilà, j'avais envie qu'il rebondisse dans une franchise et dans un environnement sain, c'est pas le cas, donc pour moi c'est mon flop individuel.
Perdu pour le basket ?
Je sais pas, c'est le corps qui lâche, le dos, le dos c'est problématique.
Moi je te trouve un peu dur, parce que concrètement c'est pas de sa faute s'il a mal au dos.
Oui, bien évidemment.
Non, mais ce que je veux dire, c'est dire que c'est un flop, je sais pas, parce que dire que c'est un flop sur une blessure, je trouve ça un peu injuste.
Ouais. C'est dur, mais il fallait faire.
J'ai le même sentiment que Fred, mais je le laisse aller au charbon. Ouais. Vas-y, on va le découper.
Si c'était de sa faute, s'il jouait mal, s'il avait du temps de jeu, etc., je pourrais dire oui, c'est un flop. Le mec est blessé, il a des problèmes. Alors déjà, il a eu des problèmes psychologiques, ce qui est une vraie maladie, qui est reconnue maintenant.
Bien sûr.
Et maintenant, il a des problèmes de dos et de santé. C'est comme si on disait que t'es mauvais parce que tu peux pas venir au travail parce que t'es blessé. Bah c'est pareil, quoi. Ouais. Ça n'a rien à voir.
Oui, mais pour un numéro 1 draft de... Il accumule quand même de nombreuses blessures, ce qui
Oui, mais est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est de sa faute qu'il était numéro 1 draft?
Après, je te rappelle que numéro 1 draft, il a quand même assumé son statut sur sa première saison.
Le passé,
il a deux doigts dans les autres, triple double.
Et quand t'as dit qu'il n'a jamais été superstar, quand il était à Philadelphie, c'était pas dégueu quand même.
Bravo à lui, mais là, on parle de la saison 2023-2024. Il a joué 15 matchs pour 6 points de moyenne.
Parce qu'il est blessé.
D'accord, c'est un flop.
Pas parce qu'il est mauvais.
C'est un flop.
Mais non, c'est pas un flop.
D'accord.
Ou un flop de l'infirmerie, alors.
C'est une déception quand même.
C'est une déception, mais pour lui, bien sûr qu'on est triste. On préférait le voir jouer.
On est triste, on veut qu'il se rétablisse. Mais
j'adorerais pouvoir le voir jouer 70 matchs et dire qu'il est nul à chier, je suis ravi qu'il joue pas. Sauf que c'est pas le cas.
Ok.
Après, moi je ne mettrais pas un flop parce qu'il a dépensé pas mal d'oseille à 8 ans pour Fernando cette saison,
il est venu. Ça t'arrange.
Donc moi, bravo Ben, si tu peux revenir l'année prochaine.
Ou cet été, même s'il ne fera pas la campagne olympique avec l'Australie.
Il ne fera pas les Jeux.
Et enfin, pour conclure, ton flop.
Et mon flop collectif, ce n'est pas une équipe, enfin si, c'est un trio, voilà, ce sont les arbitres. On les a trop vus cette saison. Je pense que Steve et Fred ne vont pas me reprendre là-dessus. La principale qualité d'un arbitre, que ce soit un duo ou un trio, c'est quand on sort d'un match et qu'on dit « Putain, les arbitres, on les a pas vus. C'est magnifique, ils ont pris les bonnes décisions, ils ont parlé, ça a été rapide. » Et là, sur chaque match, ça a été polémique sur polémique. Il y a eu Rudy Gobert, il y a eu Victor Wembanyama, il y a eu les dirigeants du 8, il y a eu le coach de Raptors, il y a eu LeBron James qui a dit que même les arbitres auraient pu voir qu'il avait marqué à 3 points et non pas à 2 points sur une égalisation, je crois, contre Indiana de mémoire. Et surtout, ce qui me surprend un petit peu, je sais pas si vous connaissez le fameux L2M. C'est les
Last 2 minutes report.
Exactement. C'est la NBA qui publie un rapport après chaque match pour savoir dans les deux dernières minutes si toutes les décisions des arbitres, elles ont été bonnes. Mais en fait, qu'est-ce qu'on s'en fout de faire ça? Ça va mettre la pression sur les arbitres. Les joueurs, ils vont se dire « Ah bah vous voyez, les arbitres, ils sont mauvais. Les coachs, ils vont continuer à se plaindre. » Pour moi, c'est un truc qui ne sert absolument à rien. Les arbitres, ils ont de la pression. Les joueurs, ils peuvent passer à côté. Les coachs, ils peuvent prendre les mauvaises décisions sur le joueur à qui donner le ballon. Et ben les arbitres, ils peuvent se tromper. Ça sert à rien d'en remettre une couche juste pour dire ah ouais c'est vrai. Ah,
faut avouer, faut à moitié pardonner.
Ouais, mais c'est pas avoué. Non. Alors là, par contre, c'est pas avoué. C'est des gens qui les jugent et qui mettent ça sur la place publique. Je rejoins pour une fois Geoffrey.
Après, c'est la Ligue qui est garante.
C'est bizarre que le corporatisme des arbitres, l'arbitre détruit. C'est quand même bizarre.
En fait, le mec, il veut une place en NBA.
Ouais.
Non, c'est quand même... non, pas du tout.
Je pensais qu'il y avait du soutien un peu dans le corps arbitral.
Bien évidemment. Et c'est ce pourquoi je te dis, les arbitres, normalement, je les défends tout le temps parce qu'il y a... Il y a une pression. À chaque match, on peut passer à côté. Il peut y avoir des événements personnels, professionnels, sportifs qui font qu'on passe à côté d'un match. Mais là, et vous êtes bien placé pour le savoir, à chaque fois à peu près qu'on se réveillait le matin, il y avait une polémique. C'est trop en fait. Alors je veux bien.
Moi, j'ai quand même fait un match où il y a eu juste un lancer franc pendant tout le match.
Deux, non?
Voilà.
Ouais, Boston, marqué, pardon. Oui. Ouais. Un lancer franc marqué.
Et après le match, il y a eu des polémiques?
Bah non.
Bah si, sûrement.
Bah non, non.
Mais on tire pas, c'est lancé franc, on est agressif, et pourquoi on n'a pas les coups de sifflet?
Moi, j'ai beaucoup aimé. J'avais un train à prendre, le match a duré 2 heures, c'était juste parfait.
Mais vous êtes d'accord pour conclure qu'on les a trop vus, que ça a un peu pollué la saison?
Un peu.
Oui, ouais, après,
merci Fred.
Après, il y a tel volume de matchs sur NBA que forcément ça inclut des volumes de décisions à prendre et donc des erreurs d'arbitrage.
Et avec des expositions, on voit tout.
Et bien sûr, avec des caméras partout, avec des arbitrages vidéo partout. Donc oui, les arbitres sont de plus en plus exposés, mais pas qu'au basket. Au foot, c'est pareil. Au rugby, qui a longtemps été épargné par toutes ces polémiques d'arbitrage, et ben finalement, ils en reviennent comme tout le monde. Ils sont plus de côté, ils sont avec nous. Il y a des problèmes d'arbitrage partout. Donc oui, c'est problématique. Après, voilà, Adam Silver a promis de régler ce truc-là justement pour qu'il y ait un peu moins d'avantages pour les joueurs attaquants. Il faut que les arbitres de nouveau vont devoir vraisemblablement s'adapter à des nouvelles règles aussi. Voilà, écoute, c'est pas cadeau. Moi, les arbitres, j'ai jamais aimé, mais bon, j'ai pas envie de leur taper dessus parce que j'ai grand respect. Mais je suis pas comme le confrère Geoffrey Charpentier.
Moi, je suis pas comme Geoffrey non plus. Heureusement qu'ils sont là parce que sans eux, on ne pourrait pas.
Et ben, on va sortir les discussions en off et on va raconter et tout quand.
J'adore les arbitres.
Que tu racontes par WhatsApp, d'accord.
Merci, d'accord. Messieurs. Allez, on passe tout de suite à notre ami Victor Wembanyama dans Basket Time, bilan de la saison régulière. Oh, Mama, Victor Wembanyama!
victor. Oh, mama, Wembanyama!
Smith.
Oh, my. Blocked by Wemby. Blocked again by Wemby. Get it out of here.
There it is.
The 10th block right there. The triple-double in blocks for Victor Wembanyama.
Wembanyama. Oh, goes down low and puts it down.
Are you kidding me?
Wembanyama goes right by Durant.
Oh! With the left hand.
Victor Wembanyama est en vacances pour quasi deux mois et demi, entre guillemets, en tout cas deux mois et demi d'écart entre son dernier match avec les Spurs et son prochain, ça sera un match de préparation avec l'équipe de France à la Kind Arena de Rouen. Devant les journalistes français basés à San Antonio, Wemby est revenu sur sa saison, la série de défaites, puis la belle éclaircie de cette fin de saison collective mais aussi individuelle. Et Wembanyama a déclaré « Je dirais que je suis actuellement à 15% de mes capacités entre mon premier match NBA et ce que j'espère être mon prime. » Vous allez devoir, messieurs, façon retour vers le futur, imaginer ce que sera son prime, ce qu'il va pouvoir accomplir. Mais avant cela, Geoffrey, un mot sur sa saison.
Exactement, une année de record avec déjà un bilan moyen juste exceptionnel. 21,4 points de moyenne, 10,6 rebonds, 3,9 passes en un peu plus de 29 minutes de jeu et tout ça en jouant 71 matchs sur 82 et ce malgré les précautions prise par sa franchise pour gérer sa santé. On peut rajouter que Wemby a terminé meilleur contreur de la saison avec 3,6 contres par match et depuis Shaquille O'Neal, le pivot français est devenu le premier rookie à cumuler plus de 300 contres et interceptions dans une même saison. Dans le détail, 254 contres et 88 interceptions, 3 fois rookie du mois. Un 5x5 monstrueux face aux Lakers, pour rappel, 27 points, 10 rebonds, 8 passes, 5 rebonds, 27 points, 10 rebonds, 8 passes, 5 contre 5 interceptions, seulement 14
joueurs. Les arbitres, parfois.
Ouais, c'est compliqué. Seulement 14 joueurs l'avaient fait avant lui, mais lui a été le plus jeune à réaliser une telle prouesse. Une pointe à 40 points, 20 rebonds face aux Knicks, ou encore un triple-double avec notamment 10 contres. 34 ans qu'un débutant n'avait pas réussi une telle ligne de stats. Seul Abdul-Jabbar par 5 fois, Olajuwon et David Robinson avaient déjà sorti des saisons à plus de 1500 points, 250 passes et 250 contres. Mais Victor Wembanyama a été le seul à le faire en étant rookie de la NBA. Des records, on peut encore en trouver. Mais Wemby, il a senti que le regard des autres avait changé et c'est notre confrère Olivier Folpin qui a pu l'interroger sur le sujet.
Bien sûr que je le vois, l'évolution, parce qu'avant c'était... Enfin voilà, il y avait des débats publics qui n'ont plus lieu d'être et des nouveaux qui apparaissent. Donc c'est satisfaisant parce que... Et je pense que ça fait plaisir de voir que, comme le projet collectif, voilà, ça, les choses se concrétisent.
Merci Geoffrey. C'est peut-être la stat la plus basique, Fred. Stephen, quand on voit la saison de Victor Wembanyama, il a joué plus de 70 matchs. Parce que c'était quand même les questions au début. Est-ce qu'il va pouvoir encaisser une saison NBA ? Il y a certes eu les restrictions de minutes sur la cheville, mais il a joué 70 matchs.
Oui, alors moi j'ai envie de tirer un grand coup de chapeau à Greg Popovich, parce qu'on l'a déjà dit et j'ai envie de me répéter, parce qu'on a beaucoup critiqué Greg Popovich. On a dit, ouais, sa façon de coacher Wembanyama, c'est un peu n'importe quoi. Pourquoi il le coach
à la... Toi, t'as dit qu'il était périmé, Maresquin.
Pardon ?
T'as eu des doutes sur Popovich, t'as dit, ça y est, il commence à être sénile.
Oui, bah oui, bien sûr, mais je me suis vraiment posé la question. Sauf que le mec joue 70 matchs, sauf que le mec fait des stats incroyables, sauf qu'il continue à progresser pendant toute l'année, sauf que sa façon de jouer a évolué. Alors défensivement, il a toujours été un vrai danger et de plus en plus, on a vu certaines actions, je crois contre Memphis, où il y a trois mecs qui arrivent en contre-attaque sur lui et qui préfèrent faire des dribbles de recul parce qu'ils disent attends, il y a une barrière infranchissable en face de moi. Je pense vraiment que c'est fantastique ce qu'on a vu, et ces 70 matchs, pour moi, c'est peut-être le plus important, parce que le talent, on n'a jamais mis en doute, mais par contre être capable de jouer, oui, avec cette intensité, cette dureté, 70 matchs en NBA, c'est fort.
Il y avait beaucoup de doutes. Il est grand, il est tout fin, il va jamais encaisser les chocs des gros babas en NBA, il va jamais tenir le rythme des back-to-back et compagnie. 71 matchs, il n'y a pas eu un vrai coup de mou dans la saison. Il n'y a pas eu un match où il a été à l'agonie complet. Il a toujours été là. Alors, bien sûr, il y a des différences de stats.
Alors, parfois, il s'en est super bien sorti. Parce qu'il y a eu une prolongation. Oui,
bien sûr. Mais il n'y a pas de match où il a été, on dit, ouais, il a été catastrophique. C'est jamais arrivé. Et là où il faut tout remettre en perspective avec ces chiffres, avec ces comparaisons, c'est que Wembanyama est peut-être le rookie qui a joué le moins de minutes parmi les plus grandes saisons rookies. Il a joué à peine 30 minutes de moyenne. Les LeBron, les Blake Griffin, les Shaq et compagnie, c'était entre 38 et 40 minutes de moyenne. Donc, si tu ramènes ces stats à 36 minutes de moyenne, parce que la NBA, ils font peur, le 36 à 36 minutes,
ouais,
et c'est la plus belle saison peut-être de l'histoire d'un rookie dans l'ère moderne. Je vous passe les Will Chamberlain et compagnie à l'époque où là c'était une autre époque.
Il jouait contre qui, Will Chamberlain, je m'en rappelle.
Passe-partout et pas ce temps. Mais voilà, les pourcentages au tir, 46% dont 32% à 3 points, ça peut paraître bas, mais là encore LeBron avait fait moins bien en termes de pourcentage. C'est un garçon, Victor, qui tire mieux à 3 points en NBA que lorsqu'il était au 1m92. Il a des meilleurs pourcentages, il prend
la ligne est plus loin,
il prend les mêmes volumes et puis il termine sur des chefs-d'œuvre. Ce dernier match contre Jokic où il a un coup de chaud monumental, où il met 17 points en 3 minutes en s'arrêtant en transition pour un mec de 2m23 en tirant à 10 points. Ce match à 40 points, 20 rebonds, les deux triples doubles dont un avec 10 contres. Voilà, et puis au-delà des matchs références, des lignes de stats, il y a surtout l'impression d'un mec qui fait des actions que personne n'avait vu jusque-là. Des alley-oop ou des dunks dans des positions ou des situations où personne n'aurait imaginé
qu'il était
capable de dunker en étant dans cette position-là. Des alley-oop où la balle, elle part n'importe où. En plein milieu de la raquette, il arrive avec ses mains. Il met des dunks, des contres, des actions. Voilà,
ça va être sympa de jouer avec Victor Wembanyama.
Oui.
Le ballon n'importe où en l'air, il l'aurait
perdu. Et puis, il faut féliciter Nike qui, pour sa signature shoes, a pris comme l'alien, tu vois, la pub. Bah, ça lui correspond bien. C'est un alien, c'est un mutant, c'est un garçon qui n'est pas humain.
D'ailleurs, je ne sais pas si on a le droit de passer un message. Je veux bien cette paire de chaussures, moi.
Qu'est-ce qu'il va faire quand il sera à son prime, Geoffrey? On se dit déjà là il est énorme, et quand il va pouvoir peut-être jouer 35-36 minutes, ça va être 30 points, 15 rebonds, 5 contre.
En fait, quand tu as lu la déclat que notre ami Victor Wembanyama il a donné à nos confrères américains en disant qu'il était qu'à 15% de ses capacités.
Sano au français.
Exactement. J'ai vu Fred un petit peu dos de l'iné de la tête. Il savait pas trop, comme si cette déclat l'avait mise en colère. Non,
en colère, je sais pas si c'est en colère, mais
un petit peu,
parce que ce qu'il a fait,
s'il est à 15% de ses capacités,
non, mais
c'est juste monstrueux ce qu'il va faire.
Oui, mais
je te connais, toi tu penses qu'il aurait pu faire beaucoup mieux.
Alors il disait 15%, son premier match NBA hein, contre Dallas, et son prime, donc peut-être qu'aujourd'hui il est à 30-35 en fin de saison. Ouais. Ce qu'il a dit exactement, les mots.
D'accord, s'il a qu'à la moitié de ce qu'il peut faire, je ne sais pas en fait maintenant où est-ce qu'il peut progresser. Il a progressé sur le playmaking, il a progressé sur le fait que quand il est doublé, voire trappé, parce que maintenant c'est pratiquement le seul joueur à être trappé carrément sur une, non pas une prise à deux, mais une prise à trois, il réussit à...
Triplé donc.
J'ai dit quoi ?
Triplé donc.
Ouais, triplé, absolument.
Il a dit trappé à trois.
Ouais. Triplé. Il réussit à faire les bonnes passes au bon moment. Il a réussi à s'adapter défensivement. Je me souviens de ses premiers matchs, notamment un contre Dallas. Greg Popovich est obligé de le faire sortir au bout de 6 minutes de jeu parce qu'il a déjà 3 fautes. Ce garçon est intelligent, il est bien construit. Offensivement, Steve l'a très bien dit, il fait des highlights juste monstrueux. Il va aller chercher un quadruple-double, ça c'est sûr et certain. Après, les autres records qu'il peut aller chercher... Déjà, il va aller chercher le quadruple-double l'année prochaine pour moi. Après,
et le All-Star.
Et le All-Star.
Le All-Star, il sera défenseur de l'année prochaine. Oui. Un des deux meilleurs 5 de la saison.
Il sera meilleur rebondeur.
Voilà. Meilleur 5 défensif.
Oui, mais il faut aussi... qui réduit ses balles perdues. Il y a quand même encore beaucoup de déchets. Et c'est un axe de travail pour lui. Alors, ça va aller mieux avec la connaissance du jeu des Spurs, la connaissance de ses coéquipiers, les meilleures lectures des défenses adverses aussi, parce que tout était nouveau pour lui, la façon de défendre des équipes NBA. Bon, il va s'améliorer. Après, il en a fait 2 triple-doubles cette année. J'ose espérer qu'il y en a une dizaine la saison prochaine. Voilà, il sera, je pense, à mon sens, quasiment à plus de 4 comptes de moyenne la saison prochaine. Et puis, j'espère également que les Spurs vont gagner au moins 30 matchs l'année prochaine.
Mal, hein.
Il y a aussi, il faut être
capable. Je crois que ses ambitions sont plus collectives.
Il faut être capable d'allier les deux. Victor va progresser, mais il faut aussi qu'il emmène les Spurs à des victoires supplémentaires.
Il n'y a pas de doute quant au fait qu'il progresse, parce qu'effectivement, je trouve que cette année, il a vraiment progressé. Alors, j'ai aussi ce petit bémol sur les ballons perdus, mais il le faisait un petit peu moins sur la fin, parce qu'il dribble. Alors, même s'il dribble bas pour un grand, il dribble haut pour un petit. Donc forcément, ça peut engendrer des ballons perdus. Mais que lui progresse, ça, c'est une certitude. Maintenant, il faut qu'il amène son équipe avec lui. C'est le leadership qui doit travailler, c'est cette capacité à gagner en équipe. Et je trouve que sur la fin de saison, c'était hyper intéressant ce qu'il a proposé. Vraiment.
Pour terminer, quelles seront ses stats l'année prochaine ?
L'année prochaine, Victor Wembanyama. On avait fait ça.
On ne s'est pas trompé de beaucoup.
Ouais. Ouais. L'année prochaine, Victor Wembanyama sera à 24,8 points.
Donc un peu comme là, en avril-mars, qu'il a fait.
Sur
la saison.
24,8 points, 11,8 rebonds, 4,2 contre, 4 passes décisives de moyenne.
Et perte de balle ?
Perte de balle, 2,9.
Fred ?
Alors moi, je vais arrondir un petit peu, parce que moi, c'est plutôt 25-12.
Toi qui as sorti un 4,32 tout à l'heure.
Oui, mais je vais arrondir, parce que c'est difficile vraiment de juger, mais je pense qu'il va être à 25-12 déjà. Ensuite, je pense qu'il va progresser en passes décisives. Je pense qu'il sera pas loin de 5 passes décisives, vraiment. ce qui serait hyper important pour lui, parce que ça lui permettrait de développer son jeu. Ça aussi, c'est un axe de progression. Les ballons perdus, je pense qu'il sera à 2, parce qu'il aura progressé aussi sur ça, et qu'il sera à 4,5 contre.
Pratiquement 5 ?
Ouais.
Ah oui. Comme sur le mois de mars-avril, hein. C'est ça. Hein.
Ouais, enfin, en tous les cas, c'est ce que j'imagine.
Ok.
Et Geoffrey ?
Pour moi, il sera à 26 points, 12 rebonds. Je pense qu'il va être pas loin des 5 passes décisives par match, et il sera à 5 contre.
Pas mal.
Ouais, ouais. Oui, en fait, tu m'as dit quand même, quand je dis 4,5, je dis quoi ? presque 5 ? Et en fait,
oui,
il dit 5,
mais 4,5, c'est pas 5, Fred.
Ben non.
C'est important.
Parce que mettre 5 comptes, c'est difficile.
Et il sera champion olympique ?
Ouais.
Hein ? Bon, non.
Vu ce que Team USA envoie. Bon.
Ça sera un débat, effectivement. Il y a du très, très lourd. Allez, on passe à un quiz rapide, messieurs, pour clore ce basket time.
Godot, il n'y a pas de Tariq Abdulwahad. On s'est fait deux éléments majeurs en moins. Et c'est vrai que c'est. Allez, excusez-moi, je suis vraiment désolé. Allô ? Oui ? Attends chérie, je suis en train de répondre à une interview, je te laisse.
Et si c'était ça le principal danger pour les Bleus ? Un trop plein de sollicitations avant l'Euro ?
Je suis vraiment désolé. Hein.
Trop plein de sollicitations.
Il est sur son portable en plus.
Mais,
hein.
Mais bien sûr, il est tout le temps sollicité.
Tu l'as toujours le portable à clapet de l'époque ?
Non, malheureusement.
Non, t'as pas gardé en souvenir.
Très stylé, mais non.
Vous n'avez pas gardé vos portables à clapet ?
Si, moi je crois que j'ai un Motorola StarTac qui traîne
la classe à l'époque, mais bien sûr.
Allez, le quiz, messieurs, j'ai retiré une question parce qu'on est un peu en retard. La question que j'ai retirée, c'était ce qui donnait le piquant et qui était très dur, c'était ça de me citer les joueurs qui ont disputé tous les 82 matchs de leur équipe.
Ah ouais.
Wow.
Michael Bridges.
Austin Reeves. Chetan Graham.
Vous étiez pas mal. Il y a du Buddy Hill, Jalen Green, Jonas Valanciunas, Peyton Pritchard.
Ben Simmons.
Non, pas Ben Simmons, ouais. George Young.
Bah, Valanciunas, il faut le compter alors qu'il a joué 3 minutes
de rapidité. Allez, on attaque par les questions de rapidité. Messieurs, quel joueur a perdu le plus de ballons cette saison en volume ?
Luka Doncic.
Luka Doncic, c'est bon. 282 ballons perdus. C'est
beaucoup.
Le deuxième, vous l'avez, ça vaut pas un point.
Shai ?
Non.
James Harden ?
Non. C'est Domantas Sabonis.
Ah ouais.
Et le troisième, c'est Wemby. 260 ballons, on en parlait.
T'as vu, il est cassé partout. Hein.
Nouvelle question de rapidité. Qui fut le premier coach viré ?
Premier coach viré ?
De la saison. Le premier coach viré, vous en souvenez ?
Si, le coach des Bucks, non ? Adrian Griffin ?
Adrian Griffin, c'est bon. Et deux jours après, c'est Wes Unseld Junior qui... Ouais. Alors, c'est pas vraiment viré, puisque le coach de Washington est passé côté dans les bureaux. Deux points pour Stephen.
Ouais, il est un peu viré, quand même.
mais viré, t'es plus du tout.
Oui,
là,
mais
on te recase.
Ouais.
Tu vois ?
Il a perdu son poste.
Il a perdu son poste.
Oui. C'est joliment dit, ça.
Écoutez bien, ce sera, vous devez me dire qui parle, ce sera dans vos casques, dans vos écouteurs, ceux qui nous écoutent. Donc, qui parle ?
Rudy Gobert is going to be a Hall of Fame player one day. Rudy
Mike Gobert Malone.
Mike Malone, c'est bon.
And it just speaks to how great Nikola is.
Il parle de Jokic.
You know, but for us here in Denver, you know, we know what we have. We have the best player in the world.
Nous savons ce que nous avons à Denver, c'est le meilleur joueur du monde. Et en fait, le petit piège, c'est qu'il parle de Rudy Gobert puisqu'il s'affrontait. Il disait que Rudy Gobert va être un Hall of Famer, il lui rendait aussi hommage. Mais voilà, de placer Nikola Jokic...
Ça a l'air d'un bon gars, ce Mike Malone. Je suis désolé, mais j'ai l'impression, vraiment.
Ouais, il parle après dans ce son aussi que quand vous voyez ce que fait Lucas, ce que fait Shea, ce que fait Nikola, bah, bon courage pour le titre d'MVP parce qu'on peut rien dire aux saisons de ces trois joueurs-là. Fred, 1 point. Stephen, 2 points. Geoffrey, 0 point. Un vrai ou faux ? On va attaquer par Fred. Dalano Banton, le joueur de Portland, qui a beaucoup arrosé, est le premier joueur de l'histoire à tirer 15 tirs à 3 points dans un match. Est-ce que c'est vrai ou faux ?
C'est faux, mais à faire un 0 sur 15, c'est vrai.
Exactement, c'est bien. James Harden et Damon Stoudemire ont tiré une fois 16 reprises à 3 points. Mais ils avaient marqué. Là, le 0 sur 15.
Non, mais Steph Curry, il a déjà privé un tir à 3 points dans un match, non ?
Oui, mais c'est pas ça. La question, c'est 0 sur 15, il a fait le mec.
Ah. Non, c'était 15 tirs à 3 points.
Ouais,
Stephen Curry à 20 points.
J'ai dit faux. Mais par contre, ce qui est
mais
vrai,
c'est pas ça la question, je crois. C'est
que... Si, c'était bon. C'était le seul joueur de l'histoire à avoir pris 15 tirs à 3 points dans un match.
Mais c'est faux.
Il y a quiproquo sur la question. On devrait pas accepter le point.
Mais non, c'est super simple la question.
Non, il avait
mais non, mais après, tu dis James Harden à 16. Mais
moi, j'ai vu Harden et Damon Stoudemire à 16 tirs.
Steph Curry, il a déjà shooté au moins 20 fois à 3 points, il me semble, non ? Non, t'es pas d'accord avec ça ?
Je sais pas.
20 points ?
20 fois.
20 fois, oui, 20 fois.
Moi, j'ai un souvenir de Klay Thompson qui en envoie 16 ou 17, je sais pas.
Bon, peu importe, en tous les cas, j'ai gagné. Hey, vous n'avez pas enlevé mon point.
Vraiment, Fred.
Et en plus, j'avais même une réponse complémentaire.
Oui, d'accord, super.
0 sur 15.
Geoffrey, Victor Wembanyama est le meilleur marqueur des Spurs en volume de points.
C'est
vrai ou faux ?
C'est vrai ?
C'est vrai. 1522 points. Le deuxième, Devin Vassell, 1323 points. C'est aussi vrai par points par match en moyenne. Précision, Stephen.
Stephen Curry, alors déjà, a fait 3 fois plus de 18 tirs à 3 points. Il a fait 10 sur 23 à 3 points le 4 février contre Atlanta.
Bon, voilà, ça change.
21 tirs à 3 points contre les Lakers. Il faut être précis pour les auditeurs.
C'est sûr que c'est à 3 points, c'est pas le bon.
Oui, je suis sûr que c'est à 3 points. Oui.
Bon, tiens, question pour toi.
Oui.
On va parler d'adresse.
Oui.
Rudy Gobert a réalisé sa meilleure saison au lancer franc en carrière.
Ah. Et est-ce que Boban Marjanovic, c'est sa meilleure saison au lancer franc?
Je vais dire non.
C'est faux, 63%. Sa meilleure, c'était à Utah, la dernière saison à Utah, à 69%.
Ah non, ok.
Voilà. Point pour Stephen, qui reste devant. 3 points pour Stephen, 2 points pour Fred, 1 point pour Geoffrey. On continue le vrai ou faux. 12 équipes ont joué tous leurs matchs à guichet fermé cette saison. Boston, Denver, Golden State. Mais aussi le Jazz de Utah, Fred. C'est vrai ou faux?
C'est faux.
C'est vrai.
C'est vrai.
Le Jazz de Utah a joué tous ses matchs sold out.
Tu vas en ski. Oui, bah, tu vas en ski voir le match.
Est-ce que c'est vrai ou faux pour les Lakers qui a joué tous ses matchs à guichet fermé? Eh bien, c'est faux. Oui, les Lakers, tout n'était pas complet au Crypto.com Arena. Et enfin, Stephen,
oui.
Victor Wembanyama a fait plus de vues sur les réseaux sociaux de la NBA que Luka Doncic.
Non, c'est faux.
C'est vrai.
C'est vrai. 1,3 milliard de vues contre 1,2 pour Luka.
Il y en a qui le battent. Je crois que c'est Steph Curry.
C'est LeBron avec 2 milliards et Steph Curry.
Ah, Lucas, il est derrière. Très bien.
Et juste derrière. Donc, ce qui fait que Fred a eu faux et les Lakers, tu as eu bon, Geoffrey. Je n'ai pas fait les comptes. Donc, 2 points pour Fred, 2 points pour Geoffrey, 3 points pour Stephen. Et donc, on termine avec ce quiz. Chacun votre tour. Un point par bonne réponse. Les Français qui ont joué en NBA cette saison, ils sont 14 à avoir joué au moins une minute.
C'est chacun notre tour.
Chacun notre tour. Et on commence.
Le mec qui donne une mauvaise réponse, il est éliminé.
Exactement. Okay. Et après, tu continues à accumuler.
Bien sûr.
On commence par Geoffrey. Tiens.
Nicolas Batum.
Ah, bravo.
Merci. Nicolas Batum.
Tu prends ton stylo.
Je note.
Nicolas Batum, c'est bon, évidemment. Fred. Stephen.
Ouais, je prends un risque, je vais dire Rudy Gobert.
Rudy Gobert, c'est bon. Alors là, ça défile. Hein.
Bon, alors je pense que je prends un risque encore plus important. Victor Wembanyama.
Victor Wembanyama, c'est bon. Ah, forcément, ça déroule. Allez.
Evan Fournier.
Evan Fournier, c'est bon.
Merci.
Nicolas Batum.
Eh ben, je l'ai déjà dit.
Bah,
alors, c'est pas une mauvaise réponse.
Bah, si, on a dit qu'on pouvait pas répéter normalement.
Ah bon? Qui a dit?
Bah, c'est ce qu'on fait d'habitude. Qui a dit? On élimine quand on répète.
Ouais, je suis indulgent.
Oh, super, c'est parce que c'est lui.
On n'est pas. Voilà.
C'est sévère, là.
C'est bien. Kylian Hayes, c'est bon.
Oui.
Ryan Rupert,
qui a beaucoup joué en cette fin de saison, c'est bon.
Théo Malédon,
c'est bon. Nilikina. 17 matchs. Geoffrey, Franck Nilikina, c'est bon. 5 matchs.
Sidi Sissoko.
Avec les Spurs, oui. 12 matchs pour terminer pour Sidi Sissoko. Donc ça fait 6 points pour Fred, ça fait 5 points pour Stephen et 5 points pour Geoffrey.
Je suis parti avec un point d'avance et maintenant j'ai un point de retard.
Oui, je ne sais pas pourquoi. Donc ça fait 6.
Peut-être parce qu'il s'est trompé et que tu lui as enlevé un point. Peut-être, c'est possible.
Non, 6 pour Stephen, 6 pour Fred.
Il reste beaucoup là ?
5 pour Geoffrey. C'est à Geoffrey.
Ouais, il en reste 4 là, c'est ça ?
3, 4, 5.
Oula. C'est dur.
5.
Il allait assez vite.
Oui.
Bah, je vais passer.
Ouh,
je vais passer, il n'a pas joué.
Geoffrey qui reste à 5.
Ouais, Ousmane Dieng.
Ousmane Dieng, c'est bon. Qui a été
champion de G-League,
champion de MVP, et MVP des finales. Là.
Avec Sarr, peut-être.
Comment?
Avec Sarr.
Olivier Sarr.
Bah, j'ai compris,
Alex Sarr.
Ouais, non.
Avec Olivier Sarr. 15 matchs pour Olivier Sarr. Le gros duel.
Moussa Diabaté au Clippers.
Moussa Diabaté, 11 matchs.
Là, je commence à être un petit peu plus tendu quand même.
Donc, ça fait 8 points pour Stephen, 7 pour Fred.
Je crois qu'il a joué. Mais je ne suis pas sûr.
Il en reste 2.
Théo Malédon.
Il l'a dit. Ouais, donc il faut que tu trouves un autre.
Voilà, là, on t'élimine pas là-dessus.
Ouais, mais maintenant il en reste 2. C'est plus dur.
Allez, Fred, on y va.
Allez, Fred.
Ah, je vois pas.
Pour la grandeur, est-ce que tu es les deux derniers?
Alors moi j'en ai un, mais je sais pas s'il va être accepté. Joël Embiid.
Ah ben oui.
Bah j'ai envie de dire oui, hein.
Ah bah oui.
Donc ça rajoutait 15 noms. Non, il y en a un très évident que vous avez oublié.
Très évident?
Ah oui.
Malcolm Cazalon.
Alors, c'était pas le plus évident. Un match.
Je pensais à lui, mais je pensais qu'il n'avait pas joué, lui.
Non, vous en avez oublié un qui a joué quasi 63 matchs. 27 minutes de moyenne.
63 matchs ?
Oui.
27 minutes de moyenne ?
Son coéquipier est un de tes flops.
Ah, Bilal Koulibaly.
Vous n'avez pas dit Bilal ?
Quelle honte.
Victoire de Stephen Brun de ce quiz. Merci, on revient très vite évidemment par les play-in, play-off. Merci d'avoir été à l'écoute de Basket Time. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.
RMC Basket Time.